Père Christian, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Merci, bonjour.
Voilà, Père Christian, est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, tout à fait. Je suis prêtre depuis 21 ans et je suis maintenant en paroisse à Hyères, dans le Var, prévôt de la communauté de l'Oratoire de Saint-Philippe-Néri, une communauté qui a été fondée au XVIe siècle, mais qui est présente à Hyères, en tout cas érigée officiellement depuis 2012.
Alors, Père Christian, si on revient un petit peu en arrière, comment ça a commencé pour vous? Quand est-ce que vous avez ressenti cet appel? Comment ça s'est fait, en fait, dans votre parcours?
Oui, alors cet appel, moi je l'ai ressenti, j'étais lycéen. C'était en rejoignant l'aumônerie, j'avais 16 ans à peu près. En même temps, je me rends compte que la vocation, enfin en tout cas chez moi, il y a eu en même temps des événements, on va dire, fondateurs, des tournants, des caps. Et en même temps, ça s'inscrit dans toute une série de, on va dire, de signes au quotidien, des choses que j'ai reçues depuis toute mon enfance. Voilà, c'est en même temps le fruit d'une évolution normale et puis des interventions un peu plus directes de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je me souviens, peut-être un de mes souvenirs les plus forts quand j'étais petit concernant la foi, c'était la prière que ma mère me faisait faire dans mon petit lit de bébé. Tous les soirs, je priais Jésus, et ça, je m'en souviens, un souvenir très très vif de ça. Et puis, j'ai grandi donc dans les Landes, dans un petit village à Saint-Sevé, qui m'a beaucoup marqué. On allait à la messe tous les dimanches avec mes parents, avec ma mère et ma sœur, on faisait partie de la chorale du village. Et je crois que c'est là qu'est né aussi mon amour du chant, de la chorale, de la liturgie, puis une certaine régularité, c'est vrai, à la pratique. Et puis, à l'âge de 10-11 ans, on a déménagé. On est arrivé dans le Var. Donc là, c'était un changement de repère, un changement de lieu, un changement de paroisse. Moi, je quittais mes amis. Et on a un petit peu décroché sur le plan familial. On a décroché notre pratique religieuse. Alors voilà, bon, j'ai fait ma confirmation. J'ai fait ma profession de foi en sixième, en arrivant à Draguignan. Et puis là, j'ai arrêté. J'ai arrêté l'aumônerie. Ça ne m'intéressait plus. Bon, je ne suis pas pour autant devenu un brigand, mais bon, j'étais toujours un bon garçon, un bon élève. Mais bon, voilà, ça ne m'intéressait plus trop. Et puis, alors j'avais un groupe de bons amis en quatrième, troisième, avec qui je faisais du théâtre, etc. Enfin, des tas de choses, qui étaient très bien dans leur basket, j'allais dire des jeunes normaux. Et je ne savais pas, en fait, qu'ils faisaient tous partie de l'aumônerie de la paroisse. Et je me souviens d'un soir, j'étais en troisième, c'était en sortant du collège, je passais devant l'aumônerie, j'étais accompagné donc de mes amis, et puis là, il y avait un prêtre, un jeune prêtre, qui était deux fois plus grand que moi. Moi, je suis de petite taille, et lui, pour moi, c'est un géant. Et donc, il salue mes amis, et il me salue en même temps. Il me dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christian. Et toi, tu viens pas à l'aumônerie? Ben, non. Et puis alors ça a fait son chemin dans ma tête, parce que déjà, c'était la première fois que je voyais un jeune prêtre. Pour moi, un prêtre, c'était quelqu'un de plus âgé, et je pensais pas avoir un jeune prêtre comme ça. Et puis ça m'a posé des questions. Et c'est vrai que ma mère, pendant tout mon collège, me disait, écoute, Christian, tu as fait ta profession de foi, tu devrais être confirmé, tu devrais aller jusqu'au bout. Alors je me disais quand même, elle est un peu gonflée parce que elle a tout arrêté comme pratique et elle me pousse à continuer. Je trouvais ça un petit peu audacieux. Enfin, voilà. Mais voilà, ça faisait son chemin dans ma tête. Et en seconde, je me suis dit, et si j'allais à l'aumônerie? Alors j'y suis allé, alors que la plupart de mes anciens amis qui allaient, enfin, déménager, etc., je me suis retrouvé un petit peu seul dans ce groupe. Et ça a été une chance extraordinaire. Je me suis rendu compte, à chaque fois qu'il y avait les enseignements à l'aumônerie, à côté de quoi j'étais passé jusque-là. J'ai eu l'impression à ce moment-là, alors ça parle peut-être pas aux plus jeunes générations là, mais j'ai eu l'impression à ce moment-là que je passais du noir et blanc à la couleur. Je me souviens quand mon père, étant petit, avait rapporté une télé couleur à la maison. Et ça changeait tout, en même temps ça changeait rien. Denis Fabre avait toujours la même tête, etc. Mais ça changeait tout, ça changeait tout. Et j'ai eu l'impression vraiment au lycée que ma vie prenait une tournure complètement nouvelle. Alors là j'ai fait ma confirmation, et puis je me suis investi, j'allais dire comme un fou, dans la vie de la paroisse. Je faisais partie d'un groupe de neige. Je faisais partie de la chorale de jeunes. Je m'occupais d'un groupe de cathés. Mon aumônier m'avait confié un groupe de cathés. Et ça a été pour moi une joie immense. C'est ma vie nouvelle. Voilà. Et bon, est arrivé le moment du bac. Là, se posait la question de l'orientation. Ah, tout d'abord, non, juste avant, j'ai fait un camp qui a été décisif. C'était un forum de jeunes à Paray-le-Monial. En 86. Un moment extraordinaire, parce que là, c'est là vraiment que j'ai ressenti l'appel au sacerdoce. Je me souviens qu'il y avait un appel de jeunes qui voulaient s'engager un an pour Jésus, s'engager à prier tous les jours, etc. J'ai fait cet engagement-là, et puis je suis allé prier un petit peu, parce que je sentais que ça bougeait en moi. Je suis allé prier, j'ai quitté le lieu du forum, je suis allé à la basilique, et clairement, j'ai entendu au fond de moi une voix, on pourrait dire. En tout cas, un appel. Et si c'était pour toi aussi? Il n'y avait pas plus de précision, mais pour moi, je comprenais ce que ça voulait dire, c'était être prêtre. Voilà, alors ça, je l'ai gardé en moi. Je ne savais pas trop quoi en faire, un peu comme un cadeau précieux. On ne sait pas si on doit l'ouvrir tout de suite ou pas. Voilà, donc est arrivé le moment du bac, le moment de l'orientation. Je venais de rater le concours pour entrer en médecine militaire. Je savais pas trop quoi faire. J'étais plutôt littéraire. Certains profs me poussaient un petit peu à faire une prépa littéraire. Ce qui m'attirait en même temps, parce qu'il y avait pas mal de jeunes séminaristes ou de jeunes prêtres que je connaissais, qui avait fait de brillantes études et qui du coup était envoyé en études à Rome, etc. Et je me disais, ben, peut-être que moi si je fais une prépa, ça sera aussi le cas. Et en même temps, donc il y avait un peu d'orgueil hein, derrière tout ça, et en même temps, je ne me sentais pas prêt à renoncer à toute ma nouvelle vie, à tous mes engagements paroissiaux. Je savais qu'en prépa, je pourrais jamais faire ça. Et donc, non, j'ai laissé tomber cette idée-là. Je suis parti en fac d'anglais à Aix. Et puis là, c'est un moment un peu compliqué, j'y voyais plus trop clair. Est-ce qu'il y avait toujours ce désir d'être prêtre, pas... En même temps, voilà, j'étais très amoureux d'une jeune fille. Voilà, je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu perdu. J'avais envie d'aimer, mais je sentais qu'il y avait un gros point d'interrogation derrière tout ça. Et je suis parti faire une retraite. Une retraite à Notre-Dame-de-Vie. C'était mon aumônier qui m'avait conseillé de faire cette retraite. Une retraite pour prêtres, séminaristes et jeunes gens. Alors je me suis dit, bon, c'est chouette, il y a des jeunes gens, donc je ne serai pas tout seul. Puis en arrivant, dans la catégorie jeunes gens, on était deux, et l'autre entrait au séminaire. Donc je me suis senti un tout petit peu pas piégé, mais il y a eu un premier jour de malaise intense. Et puis le deuxième jour, j'ai eu vraiment l'impression d'être à ma place. Alors là, j'ai pris ma décision, j'en ai parlé donc à la jeune fille que j'aimais. Bon, c'était évidemment difficile, ça c'est évident. Et en même temps, je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, ça ne m'étonne pas et je m'y attendais un peu. Alors, j'ai vu ça comme une confirmation, hein, ça c'est sûr. J'ai terminé donc mon cycle d'études, hein, à l'époque c'était le DEUG. Et puis je suis rentré au séminaire en 91 et je crois que je n'ai pas regretté un seul instant. Je résumais mon parcours, mais je me rends compte que c'est l'histoire de toute une vie et qu'il y a des moments, puis il y a des choses qui se vivent dans la continuité, comme une maturation longue, et de la prière de mes parents étant petits jusqu'à un choix personnel. Et voilà.
Et alors, Père Christian, vous avez fait, donc, vous avez suivi les cours au séminaire, vous êtes devenu prêtre. Qu'est-ce qui a motivé finalement le choix ensuite d'être parmi l'oratoire de Saint-Philippe Néri? C'est venu après, dans un second temps? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est venu après. C'est venu après. C'est vrai que j'ai eu plusieurs figures de sainteté qui m'ont vraiment marqué tout au long de mon cheminement, en tout cas depuis le lycée. Moi, c'est Thérèse de Lisieux, ça c'est évident, parce que c'est déjà elle priait pour les prêtres et pour les pécheurs. Alors je me dis, ben c'est bon, dans les deux cas, c'est pour moi. Et puis bon, des phrases clés. Maximilien Kolb m'a énormément marqué. Cet amour pour la Vierge Marie, et puis de donner sa vie. Voilà. Karl Leissner, également, le bienheureux Karl Leissner, qui a été ordonné prêtre à Dachau en 44. Hein. C'est une figure qui m'a énormément marqué. Mais Saint-Philippe Néri, je ne le connaissais pas tellement. C'était bon, je savais que c'était le saint de la joie, un côté un petit peu bouffon, folle en Christ. Hein. Mais je ne le connaissais pas. En revanche, pendant toute ma période du séminaire, j'étais très attiré par une vie communautaire. Je ne me sentais pas appelé à une vie religieuse, mais en même temps, je me sentais appelé à une vie communautaire. J'ai été voir un peu à droite, à gauche, enfin, en tout cas, me renseigner l'histoire de quelques week-ends. Mais rien ne me convenait vraiment. Les manuels me plaisaient beaucoup, mais c'était pas ce qui résonnait en moi, même si ça m'avait apporté, c'est là que j'ai eu ma vocation. Saint Jean de Malte, à Aix-en-Provence, m'avait beaucoup attiré par la beauté de la liturgie. J'arrivais pas à trouver. Alors j'ai gardé ça dans mon cœur, j'en avais parlé un petit peu à mon supérieur, etc., à mon père spirituel. Bon, j'ai été ordonné en 99 et là je suis resté 6 ans en paroisse, dans une très belle équipe de prêtres. Mais parallèlement à ça, il y avait tout un groupe d'amis prêtres et diacres qui démarraient ce projet-là de l'oratoire. Et un jour, ils m'en ont parlé. Ils m'ont dit, écoute, Christian, il faudrait que tu viennes voir. Alors, au bout de 6 ans, lorsque mon évêque m'a dit, écoute, je compte te bouger de paroisse au bout de 6 ans, quels seraient tes souhaits? Je lui ai parlé de l'oratoire, de ce qui se mettait en place ailleurs. Je suis venu et je suis resté. Et c'est là que j'ai découvert en fait Saint-Philippe Néri.
C'est après, oui.
C'est après. Il est passé discrètement par les coulisses, mais il est monté sur scène et il m'a entraîné avec lui. Donc c'est vraiment la figure d'abord d'un mystique. Quelqu'un qui a été vraiment habité par l'Esprit Saint et qui est apôtre de Rome au même titre que Saint Pierre et qui a réévangélisé cette ville de Rome. Voilà.
Alors, Père Christian, aujourd'hui, en tant que prêtre et en étant à l'oratoire Saint-Philippe Néri, quelles sont les missions qui vous tiennent le plus à cœur? Je crois que, notamment, vous animez tout ce qui concerne le chant, non? C'est ça?
C'est ça. C'est ça. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient de ma petite enfance. Avec cette chorale à Saint-Sevé. Oui, je m'occupe ça c'est une de mes plus grandes joies, de la chorale, donc des répétitions, soigner la liturgie. Je me rends compte que le chant touche des choses profondes en nous, et qu'il y a vraiment des personnalités qui s'ouvrent à partir du moment où on ouvre la bouche et où on respire, il y a quelque chose qui se passe. Et des personnes qui se mettent en route à travers la liturgie. Ça c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres choses également qui me procurent beaucoup de joie dans mon ministère. M'occuper des enfants. Je me suis occupé de jeunes pendant longtemps, pendant mon premier ministère, et notamment les lycéens et étudiants. Et je garde un souvenir très très vif de ces jeunes qui venaient pour demander un accompagnement spirituel, etc. Enfin, c'est très beau de voir Dieu intervenir dans des existences. Les enfants, la catéchèse. Le baptême des adultes, le catéchuménat, ce sont des choses qui me touchent beaucoup et aussi la pastorale du deuil. Bon, ce sont des choses qui m'ont marqué tout au long de ma vie. Enfin voilà, bon, le deuil de ses parents, c'est déjà une étape importante. Le deuil d'un ami prêtre qui m'a énormément marqué aussi. Ça a été, voilà, je parlais des saints tout à l'heure, mais il y en a certains qui ne sont pas canonisés, et je pense au Xavier Brou, ce jeune prêtre qui s'était tué en voiture et qui a fait son séminaire avec moi. C'était un enseignement vivant, quelqu'un qui était habité par la prière, Voilà, il suffisait qu'ils se mettent à genoux et on avait un enseignement sur la prière. Enfin, il y avait une espèce de chape de grâce qui planait sur lui. Et puis, bon, un sens très aigu de la charité et de la vérité. Quelqu'un qui m'a énormément marqué. Et c'est vrai que l'accompagnement spirituel aussi est une des choses qui me comble le plus dans mon ministère, de pouvoir être témoin humblement du cheminement des gens qui cherchent des réponses, et on ne les a pas forcément, nous non plus, mais ce compagnonnage à la suite du Christ, hein, je trouve c'est une des choses fabuleuses, parce que c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, ça ne se calcule pas, ça ne se fabrique pas, on est témoin de ça, et on ne peut que rendre grâce, hein, ça c'est une grande, grande joie.
Aujourd'hui, Père Christian, vous êtes un prêtre toujours en mission, en action. Vous êtes un prêtre heureux aujourd'hui?
Ah oui, ah oui. Oui, je suis un prêtre heureux. C'est évident qu'il y a des moments difficiles, comme dans toute vie. Dans une vie de couple, pareil. Il y a des moments où, vous savez, dans les équipes Notre-Dame, hein, on parle beaucoup du devoir de s'asseoir, où les époux doivent apprendre à se parler. Ben, c'est pareil dans une vie consacrée. On doit aussi s'asseoir et parler avec le maître, parler avec celui que l'on a choisi, parler avec l'épouse qui est l'Église. Bien sûr, il y a des moments où on se reconstruit. Il y a des saisons dans une vie et dans une vie spirituelle aussi. Il y a des moments plus compliqués, mais ce n'est pas contradictoire au bonheur et à une vie comblée. Vraiment, je rends grâce pour cet appel à Paray-le-Monial, à tous les aumôniers de jeunes que j'ai eus qui m'ont accompagné, à tous les paroissiens qui ont prié pour moi. Je me souviens d'une dame âgée quand j'étais à Draguignan. J'aimais bien aller prendre un temps d'oraison dans l'église. Et puis il y avait une dame âgée qui est décédée depuis et qui avait l'habitude de dire le chapelet très vite, très fort. Et qui me gênait un peu dans ma prière de jeune converti. Et le jour de mon ordination, elle est venue. Et elle me disait, Christian, quand j'ai vu ce jeune qui venait prier à l'église, je me suis dit que j'allais dire le chapelet pour vous. Voilà, je me dis, ben, cette dame qui me gênait dans ma prière, en fait, elle priait pour
Elle
moi.
priait pour
Gloire
vous.
à Dieu.
Gloire à Dieu. En tout cas, merci, merci beaucoup, Père Christian, pour ce beau témoignage, ce temps de partage aussi avec tous les
Merci à
auditeurs
vous.
de Radio Maria.
Merci à vous. Je me confie à votre prière et puis je confie aussi à votre prière bien toutes les vocations, tous les jeunes qui se posent des questions, qui ont parfois du mal à entendre l'appel ou à y répondre. Et puis les vocations dans l'oratoire, hein, si on peut aussi demander cette grâce-là, voilà, des vocations dans notre congrégation.
Très bien, mais en tout cas, merci beaucoup, Père Christian, et en union de prière avec vous et tous vos frères,
En une
l'oratoire.
nom de prière, merci.
Merci. Au revoir, Père.
Au revoir, merci.